zine que vous allez suivre est une rediffusion.
Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. C'est un fléau qui mine les partis et la confiance des citoyens dans le débat politique. C'est un trou noir qui déstabilise aussi l'économie, la corruption. Elle est pourtant bien renseignée, mais pas vraiment éradiquée. Tour d'Europe des mauvais élèves aujourd'hui dans Accent d'Europe et de ceux qui peuvent encore mieux faire. Et l'on commencera par la Hongrie, troisième sur la liste des pays de l'Union européenne, mais en partant du bas, juste un peu mieux que la Grèce ou la Bulgarie. Mais dans ce pays dirigé par Viktor Orban, la corruption atteint les plus hautes sphères de l'État. À Budapest, Florence Labruyère.
Ce n'est pas un système classique de pot de vin ni d'enveloppe glissée sous la table. En Hongrie, la corruption est organisée au plus haut niveau de l'État. Ce sont les conclusions de l'ONG Transparency International. Tout d'abord, la majorité des marchés publics sont remportés par des proches du Premier ministre. Et le gouvernement de Viktor Orban a aussi mis en place des systèmes ingénieux. Entre 2013 et 2017, il a vendu des visas Schengen à de riches citoyens saoudiens, russes ou chinois. Il suffisait d'investir 300 000 euros dans des bons du trésor hongrois. En échange, ces riches étrangers recevaient un permis de séjour permanent en Hongrie, pour eux et leurs familles, qui leur permettait de circuler dans toute l'Union européenne. 20 000 personnes ont reçu ces documents, surnommés des visas en or. Mais le gouvernement Orban ne les a pas vendus directement. Il est passé par de mystérieuses entreprises qui ont prélevé une commission. Les médias hongrois ont révélé que ces sociétés, dont le siège social était installé dans des paradis fiscaux, étaient liées aux conseillers de Viktor Orban et à l'un de ses ministres. Ces entreprises ont engrangé un bénéfice de 192 millions d'euros. Un montage astucieux, mais c'est de l'argent volé aux contribuables hongrois, affirme Transparency International. Le gouvernement Orban dépense aussi l'argent public dans de fastueuses opérations de communication. Sa campagne contre le milliardaire américain George Soros a coûté plus cher que la campagne du référendum pour le Brexit. Une opération qui, là encore, enrichit une poignée de mystérieux intermédiaires. C'est la face cachée de la corruption en Hongrie. Every day I think about the money. Let's go. What am I gonna do with all this money? I can't go a day without my money.
Et en Albanie, c'est un peu la même chose. Le pays est bon dernier du continent européen. Il n'est pas membre de l'Union européenne. Le pays tente déjà de faire le ménage dans la justice. Première condition pour punir les dérapages. Mais les mauvaises habitudes touchent toutes les sphères de la société, y compris la police municipale. Reportage à Tirana de Louis Seyé.
Ilir est un jeune trentenaire dynamique. Il a fait le choix de revenir en Albanie après des études en France. Il y a moins d'un an, Ilir a ouvert un kebab dans le centre de Tirana. Mais il a tout de suite été confronté à certaines réalités.
Des policiers municipaux qui sont passés ici pour contrôler si j'avais les papiers pour utiliser l'espace, ils m'ont proposé plusieurs fois de les payer directement. Et en gros, que ça allait me revenir presque la moitié du prix normal fixé par le maire de Tirana.
En revenant en Albanie, Ilir ne se faisait pas d'illusions sur la corruption. Mais la réalité a dépassé ce qu'il imaginait.
Ils m'ont dit que voilà, eux, ils voulaient telle somme. Le seul problème, c'est que aussi, c'était qu'il n'y avait pas un seul groupe de policiers qui venaient. Il y a eu deux, trois groupes qui sont venus et chacun a donné son prix. Qu'en gros, ça me revenait quand même vachement cher. Et moi, de toute façon, j'avais décidé de le faire en règle, même si j'étais déçu des prix et des conditions et de tout le reste.
Ilir préfère rire de ses mésaventures, mais en payant le prix fort, pas facile de faire marcher son restaurant.
Ouais, j'ai essayé d'être un bon citoyen. Peut-être c'est pas à mon avantage, mais ouais, j'ai voulu faire les choses en règle. J'ai essayé de tout faire en règle. Ça me pénalise beaucoup par rapport à beaucoup d'autres, mais je pense que ça pénalise toutes les personnes qui essayent de faire quelque chose dans les règles en Albanie.
La corruption touche tous les secteurs de la société albanaise et elle n'épargne pas l'éducation. Depuis décembre, les étudiants manifestent pour changer le système universitaire. Davis est étudiant en master d'informatique.
Pour une année, je paye 100 000 lek, soit près de 800 euros. C'est un tarif très élevé pour nous les étudiants. Je travaille tous les jours pour financer mes études, mais c'est vraiment épuisant.
Les frais d'inscription ne sont pas la seule revendication des manifestants. Ils en ont aussi assez des bakchiches qu'il faut donner tout au long des études.
Il y a beaucoup de problèmes. Les profs sont en retard, on ne vient pas. Mais le pire, c'est qu'il faut toujours leur donner des petits billets au moment des examens.
Arnisa Tepelia travaille pour un projet européen de lutte contre la corruption. Elle se souvient de son propre passage sur les bancs de l'université.
Moi-même, j'ai étudié le droit à l'université de Tirana, et ça, c'était vraiment ironique, car je me suis inscrite avec un idéal de justice. Et ce que j'ai trouvé à la fac, c'était un système de corruption massif et systématique, avec des plagiats et des bakchiches généralisés. Ça m'a déprimée et complètement démotivée. Ce mouvement étudiant qui s'est emparé de ces questions me donne beaucoup d'espoir.
Aujourd'hui, Arnisa intervient auprès des différents ministères albanais pour promouvoir l'intégrité professionnelle.
Nous nous focalisons sur les institutions publiques et dès le début, les fonctionnaires doivent comprendre que ce n'est pas eux personnellement, mais les mécanismes que nous voulons changer. Le but est d'avoir des personnes compétentes dans les administrations et non pas des fonctionnaires politiques. Ils doivent pouvoir représenter une administration non corrompue et faire entendre leur voix.
Pas toujours facile de changer certaines pratiques. Pour Arnisa, cette corruption du quotidien trouve son origine dans les troubles politiques et sociaux des années 90.
Pendant la transition qui a suivi la chute du communisme, la plupart des structures de l'État se sont effondrées. Il fallait tout reconstruire depuis zéro et ça ne s'est pas fait correctement. Des réflexes de société clanique sont réapparus avec du népotisme qui a permis à certaines personnes de prendre et garder le pouvoir, ce qui est plus facile dans une société au fonctionnement chaotique.
Les Albanais ne font pas confiance à la plupart de leurs institutions et notamment au secteur judiciaire. Une réforme est en cours pour évaluer les 800 magistrats du pays. Un pari pour Johanna Celeschi, une jeune procureure énergique de Durres, la deuxième ville du pays.
Je crois que la perception du système judiciaire changera si la réforme qui a lieu en ce moment atteint vraiment ses objectifs. Concrètement, il faut que les procureurs qui ne méritent pas de faire partie de ce système soient remplacés par ceux qu'ils méritent.
Un changement qui se fait toujours attendre. Dans le dernier classement de Transparency International, l'Albanie est désormais le plus mauvais élève du continent européen.
En Espagne, la corruption a atteint son apogée dans les années 2000. La collusion entre les partis et les milieux d'affaires était à son apogée. C'est ce qui a d'ailleurs coûté son poste en juin dernier au conservateur Mariano Rajoy. Aujourd'hui, la loi de 2014 est censée mettre un terme au financement illicite des partis. Mais la confiance des citoyens reste ébranlée. C'est le reportage de Diane Cambon.
Depuis 2015, Elena Biroun est maire de Torrelodones, une petite ville de 22 000 habitants à 30 km de Madrid. Rien ne prédisposait cette mère de famille de 45 ans à prendre les rênes de sa mairie. Apolitique, cette brune dynamique faisait partie d'une association de quartier quand elle fut parachutée à la tête de l'opposition pour freiner un des ultimes projets suspects du pouvoir municipal en place.
Concrètement, ils avaient comme projet de modifier le plan d'occupation des sols d'une zone naturelle protégée pour faire ce qu'ils font toujours, à savoir des logements et un terrain de golf. Dans ce super projet, on retrouvait toujours les mêmes personnes et en plus des membres de la famille du maire. Il y a eu une vive réaction de la part des habitants et on a constitué un mouvement de citoyens critiques qui voulaient dénoncer ces malversations.
Au cours des années 2000, alors que l'argent pour l'immobilier les travaux publics coulaient à flot, l'Espagne est devenue un laboratoire à ciel ouvert en matière de réseau de clientélisme, pots de vin et renvoi d'ascenseurs. Pour Julio Maradas, économiste et citoyen engagé, c'est le système même qui permet ces dérives.
Il y a des normes, des législations qui facilitent la corruption. Par exemple, ce sont les mairies qui gèrent tout ce qui concerne les logements ou la construction. Et là, très souvent, les entreprises de BTP peuvent jouer de leur influence auprès des municipalités.
D'autres failles du système ont permis durant des décennies des abus, lesquels ont coûté des milliards d'euros aux citoyens espagnols. Juan Monedero, professeur en sciences politiques et ancien membre du comité exécutif du parti alternatif de gauche Podemos, estime que la structure même des partis politiques
favorisent les délits.
Aujourd'hui, entrer dans un parti, c'est obtenir des privilèges. Tu peux obtenir de meilleures conditions de détention dans une prison. Un appui judiciaire pour la prescription de tes délits. Tu peux compter sur l'aide des juges, bien avenant avec le parti auquel tu appartiens. Les partis, surtout ceux de droite, sont d'excellents tremplins pour faire du business. Si tu veux comprendre le fonctionnement du Parti populaire ou d'un autre parti, c'est beaucoup plus utile de lire Le Parrain que L'esprit des lois de Montesquieu.
C'est aussi l'avis de Julio Maradas qui accuse directement les partis d'être à l'origine des cas de corruption.
Ce sont des structures très pyramidales. Ça facilite le fait que certaines personnes entrent dans un parti pour des raisons financières et non pas par conviction éthique. Je n'ai pas de problème à dire que c'est le cas de l'actuel président du Parti populaire ou du secrétaire général de Vox. Deux personnes qui n'ont jamais travaillé en dehors du parti. Ils ont toujours vécu de la politique, qui représente leur unique moyen de gagner leur vie. Pour ma part, je ne crois pas dans leur profession de foi éthique, au cas où ils seraient choisis pour gouverner le pays.
Rendre crédibles les politiques et faire de la gestion municipale une tâche transparente, c'est le désir de la maire Elena Biroun de Torrelodones. À son arrivée au pouvoir, elle a dû modifier les habitudes, mettant fin à des années de clientélisme.
J'ai mis fin à l'emploi des personnes de confiance, sans qualification, sans aucun mérite que d'être un ami, un cousin ou une connaissance du parti. Pour moi, c'est du gaspillage et un foutage de gueule.
La loi de transparence en vigueur depuis 2014 oblige désormais les organismes publics et le personnel politique à davantage de clarté sur les budgets, les embauches ou les contrats passés. Il est possible à tous les citoyens de consulter en ligne les marchés publics, la rémunération des élus et les subventions versées aux partis politiques. Pour Maria, une simple électrice retraitée de 65 ans, ce code de bonne gouvernance arrive un peu tard.
J'ai encore un peu confiance dans la classe politique car je continue à voter. Mais cela n'empêche pas que je me sens trahi. Je les vois comme des hommes corrompus qui pensent davantage à leur bien-être et à celui du parti qu'à celui du citoyen. Être un homme politique, ce n'est pas se battre pour arriver au pouvoir et une fois là, en profiter. Si quelqu'un est au pouvoir, c'est parce qu'il y a des citoyens qui ont voté. Et ces électeurs, ils méritent toute l'attention et le respect.
Un sondage publié début janvier par le CIS, un organisme officiel, indique que pour les Espagnols, la corruption est la troisième préoccupation derrière le chômage et la classe politique.
The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I want money.
Ce sera peut-être elle qui sera à la tête du nouveau parquet anticorruption européen qui doit, à partir de 2020, traquer toutes les fraudes aux subventions européennes. Laura Codruta-Kovács est la madame anticorruption roumaine, ancienne chef du parquet roumain anticorruption, jusqu'à son renvoi, car ses jugements lui valent aujourd'hui la haine des partis politiques qui font tout pour torpiller sa candidature à Bucarest, Benjamin Ribou.
Six mois après avoir été renvoyée du parquet anticorruption roumain, la DNA, car elle dérangeait le pouvoir, Laura Codruta-Kovács n'est toujours pas, loin s'en faut, dans les petits papiers du gouvernement roumain, qui fait tout pour la décrédibiliser et l'empêcher de devenir le futur visage du parquet européen qui sera créé fin 2020 au Luxembourg. Comment ? En faisant du lobby anti-Kovács du côté de Bruxelles, mais aussi en interne en tentant d'invalider son doctorat en droit. Mais ce n'est pas tout, puisque c'est l'action entière de ces années passées à la tête de la DNA que ses successeurs placés par le gouvernement actuel n'ont de cesse de critiquer. Pourquoi une telle déferlante ? C'est simple, la magistrate a toujours été l'ennemi juré du Parti social-démocrate et de son leader Liviu Dragnea, condamné deux fois avec sursis pour abus de pouvoir dans une affaire d'emploi fictif ainsi que pour fraude électorale. Des condamnations qui n'ont pas trop nui à sa carrière puisqu'il est toujours président de son parti et de la Chambre des représentants. Pendant cinq ans, Mme Kovács a incarné la lutte anticorruption en Roumanie en parvenant à épingler des milliers d'hommes politiques et hauts fonctionnaires, une première dans ce pays. De quoi en faire la favorite pour prendre la tête du parquet européen qui devra pourchasser en toute indépendance les grands fraudeurs à la TVA et au budget européen. Le gouvernement roumain a beau faire campagne contre elle auprès des autres pays de l'UE, elle part en pole position, d'autant que de nombreux pays dont la France et l'Allemagne ont déjà annoncé la soutenir. Si elle est choisie, Mme Kovács redeviendrait ainsi l'ennemi numéro un de Liviu Dragnea, guerre en odeur de sainteté du côté de Bruxelles. Réponse cette année après décision du Parlement européen et du Conseil de l'UE.
Tout de même des raisons d'espérer avec la chronique d'Ève Minot. Bonjour Ève.
Bonjour Frédéric.
Vous avez épluché dans le détail le rapport de l'ONG Transparency International qui, comme chaque année, a publié fin janvier son classement international des pays les plus concernés par la corruption. Un classement qui fait la part belle à l'Europe, surtout occidentale, qui chapeaute la liste des pays où la corruption est la moins perceptible, même si la situation dans plusieurs pays à l'est du continent inquiète l'organisation. On fait donc le point avec vous, Ève.
Eh oui, vous savez, Frédéric, le rapport de Transparency International, c'est un peu la Bible en matière de corruption. Chaque année, depuis 1995, l'organisation, basée à Berlin, tente de comprendre comment les faits de corruption sont perçus dans chaque pays. En effet, la corruption est par définition un phénomène dissimulé, caché. Il n'y a donc aucune donnée brute objective de statistiques en la matière. L'organisation non gouvernementale, bien connue, qui revendique d'ailleurs son impartialité, a donc choisi, à la création de son classement, de fonder ses notes sur des enquête d'opinion en demandant aux citoyens eux-mêmes d'évaluer l'existence ou non de faits de corruption dans les 180 pays étudiés.
Et alors, que révèle le classement de cette année ?
Eh bien, selon ces critères, l'Europe peut être fière d'occuper 3 des 5 premières places du classement et 15 des 20 premières places, avec des notes parfois au-dessus de 85 sur 100, avec le Danemark en champion qui reprend la première place après l'avoir cédé l'année dernière à la Nouvelle-Zélande, la Finlande à la troisième, sur la troisième marche du podium et la Suède à la cinquième place. Les autres pays distingués à ce niveau sont donc la Nouvelle-Zélande, Singapour et la Suisse. Globalement, le score de l'Europe occidentale et de l'Union européenne est très bon. C'est d'ailleurs le meilleur score par région au niveau international avec une moyenne de 66 sur 100. Beaucoup enregistrent cependant une baisse de points, plus ou moins importante depuis 2012. La Belgique perd d'ailleurs une place au classement. Les Pays-Bas stagnent à la huitième, suivie par le Luxembourg et la France qui, elles, gagnent 2 places au classement avec 71 points et se trouvent aujourd'hui à la 21e place aux côtés de la Belgique et de l'Irlande et de l'Estonie.
Mais de nombreux pays inquiètent l'ONG.
Oui, sans surprise, vous en avez d'ailleurs parlé dans l'émission, les plus mauvaises notes dans l'Union européenne ont été attribuées à la Hongrie, la Grèce et la Bulgarie. La Hongrie d'abord qui a perdu 9 points sur les 7 dernières années, notamment suite à l'accession du dirigeant Viktor Orban au pouvoir. Globalement, c'est d'ailleurs l'arrivée de plusieurs partis populistes ou d'extrême droite aux manettes qui inquiètent l'ONG, car celles-ci sont souvent accompagnées de nouvelles lois qui permettent de mieux contrôler les médias ou même le pouvoir judiciaire. Autre pays qui a beaucoup perdu de points, Malte. On se souvient d'ailleurs de l'assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia en 2017 qui enquêtait justement sur la corruption dans son pays en lien avec le Premier ministre.
On sait que la lutte contre la corruption fait partie des critères établis en 1993 par l'Union européenne pour rejoindre ses rangs. Alors à quoi ressemblent les notes des candidats à l'adhésion ?
Alors, parmi les pays qui ont entamé des démarches pour intégrer l'UE, les scores sont très bas, relève l'ONG. Le Monténégro et la Turquie sont proches du niveau de la Bulgarie, mais les autres candidats, notamment dans les Balkans, Serbie, Bosnie, Kosovo, Albanie, ont une corruption très présente, ou en tout cas perçue comme telle sur le territoire. La Macédoine atteint un score de 33 sur 100, 2 fois moins que la moyenne européenne. Idem pour la Moldavie, plus bas donc que la Turquie, qui elle réalise un score de 41 sur 100.
Mais Ève, l'ONG rappelle également à l'Union européenne que même dans les pays où les faits de corruption paraissent rares, il ne faut pas baisser la vigilance.
Et oui, en prenant l'exemple du Danemark, le rapport remarque même que dans le secteur public danois, donc le plus propre au monde, la corruption existe, comme en témoignent les récents scandales bancaires de blanchiment qui ont impliqué la Danske Bank à l'automne dernier. Souvenez-vous, un lanceur d'alerte, un trader britannique, avait permis d'établir que plus de 200 milliards de dollars avaient pu être blanchis via cette banque avec l'aide de 2 banques américaines entre 2007 et 2015. Une preuve, s'il en fallait, que la lutte contre la corruption ne supporte aucun répit.
Merci Ève Minot, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Groslot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast et Accent d'Europe. On se retrouve très bientôt. Restez à l'écoute de RFI.